Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous nous retrouvons cette semaine, non dans notre studio habituel, mais au siège de la revue Esprit, au cœur de Paris, dans le 3e arrondissement. La revue Esprit, fondée en 1932, qui a joué et joue plus que jamais un rôle important dans la vie des idées en France. Son numéro double de janvier-février est consacré à Michel de Certeau, dont nous allons bien sûr parler. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à cette revue qui a 90 ans, fait toujours preuve d'une belle agilité intellectuelle. Et nous sommes en compagnie de sa directrice, Anne-Lorraine Bujon. Bonjour Anne-Lorraine.
Bonjour.
En compagnie également de Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions et éditeur, traducteur, auteur chaque mois d'articles dans la revue. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour également à Guillaume Leblanc, vous êtes avec nous, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Paris. Et avec vous, nous allons parler non seulement de la revue Esprit, mais de Michel de Certeau, donc, qui est au cœur du dossier de ce numéro double. Nous sommes ravis d'être parmi vous. Merci de nous accueillir, Anne-Lorraine. Et nous sommes environnés, cela crée une atmosphère très chaleureuse, de quasiment toute la collection de la revue Esprit.
Et oui, vous êtes dans nos locaux à Paris. On est très content de vous y accueillir aussi. On aime penser à cette revue comme un lieu intellectuel, un vrai lieu, un endroit où on peut se retrouver, mais aussi un endroit ouvert où on invite périodiquement des auteurs à présenter des livres, où on invite aussi tous les membres de notre comité de rédaction à se réunir à intervalles réguliers pour fabriquer avec nous cette revue, mois après mois. Et nous sommes en effet entourés de tous les numéros de la revue depuis 1932. Alors les plus anciens tombent un peu en miettes par la force des choses, mais heureusement ils existent aussi sous forme reliée et sous forme numérique. Et puis il en manque quelques-uns des numéros qui ont marqué leur époque. Et qui
il vous manque le numéro 1, semble-t-il.
Oui, le numéro 1, on l'a juste en format relié. Et puis voilà, il y a quelques numéros qui se sont très bien vendus, des best-sellers, et donc que nous n'avons plus, même plus sur nos rayonnages.
Est-ce que ce n'est pas intimidant de diriger une revue qui file vers son centenaire ?
Si, très intimidant. C'est très intimidant d'essayer de prendre la suite de tous les grands directeurs qui ont animé cette revue, d'essayer de rester fidèle à son esprit en acceptant aussi qu'elle change et qu'elle évolue avec son temps. Ce qui est une autre façon, je crois, d'être fidèle à nos fondateurs qui étaient tout à fait persuadés qu'il fallait répondre à l'appel de l'événement. Et donc se laisser inspirer à intervalles réguliers et laisser la pensée se renouveler en fonction de ce qui nous arrive.
Et c'est donc dans ce cocon environné de livres et de revues que chaque mois vous décidez du contenu des sujets de la revue entre passé et présent et un peu futur également en tenant compte de cet héritage intellectuel.
Oui, alors on essaye de ne pas penser à notre héritage quand même tous les jours. Je crois que le travail de la rédaction, c'est beaucoup d'essayer de... Alors on s'est donné pour nouveau slogan depuis quelques années, comprendre le monde qui vient, mais je crois qu'il y a beaucoup de travail d'observation du monde qui nous entoure, de la façon dont nos sociétés changent, se transforment. Et par rapport à ces transformations, pour mieux les comprendre, alors la volonté parfois en effet de se référer à des auteurs qui ont fait date, qui ont accompagné la revue aussi, dont la pensée nous accompagne encore. Donc, c'est précisément l'intérêt de ce numéro que vous avez mentionné, ce numéro double sur Michel de Certeau, c'est de réinterroger la pensée de Michel de Certeau, mais pour voir ce qu'elle peut nous dire du monde aujourd'hui, comment elle peut éclairer ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc ça, ce sont des numéros qu'on fait à intervalles réguliers, une façon de réactualiser notre patrimoine, si vous voulez. Mais dans l'ensemble, on essaye de se laisser interpeller, comme je disais tout à l'heure, par les événements du moment, par ce qui compte dans le monde aujourd'hui, ce qui nous paraît significatif dans les transformations actuelles du monde.
Alors parlons du créateur de la revue. Et là, nous entrons vraiment dans le monde des idées. Emmanuel Mounier, grand intellectuel de la première partie du XXe siècle. Pourquoi a-t-il fondé cette revue ? Elle s'inscrivait dans un mouvement beaucoup plus large que l'on appelle le personnalisme, non ? Jean-Louis Schlegel, est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Oui, enfin, encore que le personnalisme, on le lui attribue. Hein, on le lui attribue comme un peu son invention philosophique. Peut-être juste pour rappel pour les auditeurs, donc il est né en 1905 à Grenoble, père pharmacien, mère femme au foyer. C'est, alors, il va au lycée, et au lycée, c'est évidemment, on pourrait dire, un brillant sujet et précoce sujet. Alors là, il subit une première influence, c'est celle de son prof de philo, Jacques Chevalier, qui sera plus tard ministre sous Vichy, du gouvernement du maréchal Pétain. Mais Jacques Chevalier, c'est un peu au fond ce qu'éprouvent encore aujourd'hui parfois un certain nombre de jeunes dans les lycées. Ils ont un prof de philo qui joue un rôle déterminant pour eux dans leur avenir, dans leur personnalité, même dans leur façon d'être et de penser. Donc il est influencé par lui. En 1927, il participe à un groupe comme ça de jeunes, de réflexion autour de Chevalier. Il est influencé aussi par Bergson, qui était quand même le grand homme peut-être encore de cette époque-là, et puis par Peggy. Il y a donc des influences diverses, mais ce sont un peu les grands noms qui l'influencent. Alors, vous posez la question, pourquoi fonder une revue ? Alors, il va la fonder en 1932, donc tout de même, à 27 ans. C'est assez prodigieux quand on y pense et qu'on pense qu'elle existe encore aujourd'hui. Oui. Parce que les temps modernes de Sartre, qui était la grande rivale de l'après-guerre, rivale et en même temps dans une intelligence entre les deux revues, finalement, elle a disparu récemment. Hein, et puis d'autres revues ont disparu. Celle-là subsiste, avec la revue des Deux Mondes, qui est plus ancienne encore, du 19e, et puis la revue Études, jésuite, qui date aussi du 19e siècle. Alors, pourquoi a-t-il fondé une revue ? Moi, je crois que la nouveauté d'esprit, c'est... Mounier était catholique, hein, c'était un catholique convaincu, familial, et puis à l'époque, il n'y avait pas de réserve chez lui, de rupture quelconque. Mais par contre, la rupture avec esprit, c'est qu'un catholique de l'époque qui fondait une revue devait fonder une revue catholique. Alors, curieusement, cette rumeur, enfin, esprit est considéré comme une revue catholique, hein, en général chrétienne, enfin, peu importe. Mais nous disons toujours, et pas du tout par honte de manifester notre christianisme, mais nous disons, non, il a fondé une revue qui sortait du giron de l'Église catholique. Il a fondé la première revue vraiment indépendante, une revue de culture politique et de culture tout court. Anne Lorraine a beaucoup insisté, et ça, c'est quand même ce geste-là que nous essayons de faire aujourd'hui. Ce n'est pas la revue de la mémoire de Mounier, malgré toute l'estime, l'admiration que nous avons encore pour lui. Nous essayons d'être contemporains de l'événement d'aujourd'hui. Alors, il a une phrase célèbre qui nous inspire toujours. L'événement, Anne Lorraine l'a rappelé, mais sa phrase, c'était « L'événement est notre maître intérieur ». Et donc, c'est pour dire que, au fond, par certains côtés, avant d'avoir une idéologie quelconque, nous devons regarder ce qui se passe, regarder ce qui arrive et tenter de comprendre. Alors, bien sûr...
Et dire comme Peggy, la vérité vraie.
Oui, voilà, un peu, c'est un peu un geste constamment repris. D'intelligence du présent. Alors bien sûr, malgré tout, Mounier quand même a des idées, hein, enfin, au fond, est influencé par son temps. Il est en réaction contre son temps, il faut le dire, le temps des années 30. Il fait partie de ceux que les historiens appellent parfois les non-conformistes des années 30. Et alors surtout, Mounier critique la démocratie des années 30. Alors là, il y a quelque chose dont nous avons souvent discuté dans cette revue, c'est, oui, discuter de la démocratie, mais c'est risqué aussi de discuter de la démocratie, où il faut le faire peut-être avec prudence.
Thème éminemment actuel, Jean-Louis Schlegel.
Alors là, on est en plein de temps aujourd'hui de nouveau, tout à fait, c'est ce que vous venez de dire, mais je pense que c'est vrai. Je venais de voir les livres arriver depuis une quinzaine de jours, mais il y en a à peu près 10 que j'ai ramassés là, qui sont sur la crise de la démocratie aujourd'hui, hein, par les différents aspects de la crise. Alors lui, il dit « La modernité, c'est aussi l'avènement de l'individu. » Mais on pourrait dire, un peu comme Mouzil dans son roman, de l'individu sans qualité. Quoi. De l'individu totalement privé de qualité, de qualité de relation, de qualité de réflexion, artificielle, artificialisée, etc. Et il dit, et contre l'individu, il défend l'idée de la personne. La personne qui est, cet individu avec une épaisseur, quoi, une épaisseur humaine, une épaisseur culturelle, une épaisseur politique. Et un individu qui s'engage. Et s'engageant, forcément, il rencontre une société, il rencontre peut-être une communauté. Encore que cette idée du personnalisme communautaire qu'on lui attribue, ce sont presque plutôt quand même dans un second temps après la guerre que des disciples de Mounier inventent ça, et notamment du côté du scoutisme. Et par ce biais-là aussi, Mounier va avoir une influence énorme sur les catholiques, qu'on va dire ensuite de gauche. Hein, ils vont se retrouver dans ces idées-là pour disons, s'intéresser à la cité et s'intéresser à la nouvelle cité démocratique qui est née en dépit, ou parfois même contre l'Église catholique officielle, l'Église catholique qui ensuite ne va pas avoir un rôle très brillant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut bien le dire. Alors juste encore un dernier mot, peut-être sur deux engagements de Mounier qui sont toujours discutés aujourd'hui, je crois qu'il faut le dire très franchement. Donc, il est séduit par certains aspects du gouvernement, du Pétain ou du pétainisme, en particulier par sa proposition du côté des jeunes. Et donc, il aura un rôle de conseiller culturel, ou je ne sais pas exactement le titre. Il y restera pendant quelques mois, 6 mois ou 7 mois, avant de démissionner, et avant d'être même, comme il résistait finalement dans la revue, il a fait de la prison, il a fait une grève de la faim. Ça, c'était en 1941, puis en 1942, il a été libéré, et là, il est allé plutôt presque dans le maquis du côté de Grenoble. Enfin, il a rejoint la résistance. Le deuxième engagement de Mounier, ça a été après la guerre. Il a été très séduit, il faut le dire, par certains aspects du communisme, alors. Hein, parce qu'il a été fasciné un peu par le problème des banlieues, totalement. Des banlieues rouges, quoi, hein, on pourrait dire. Il avait un ami prêtre qui était un type célèbre à l'époque, l'abbé De Pierre, curé de Montreuil, un des premiers prêtres ouvriers. Et Mounier a été séduit par ça, par cette. Il s'est rendu compte de peut-être quelque chose qu'il n'avait pas trop vu avant la guerre, parce qu'il voyait les classes moyennes, les individus, la démocratie, la démocratie qu'il appelait quand même.
C'est là qu'il s'est rendu compte.
Le désordre établi. Hein. Après la guerre, il se rend compte qu'il y a un problème social. Et là, je crois qu'il a toujours été à la fois sévère pour le Parti communiste, avec ses 75 000 fusillés quand même. Hein,
le Parti communiste qui exerçait l'influence que l'on sait dans
exactement.
Le monde intellectuel.
Hein. Tout en étant critique, hein, enfin, il a quand même des textes critiques, mais enfin, il s'est fait attaquer quand même pour un certain. On lui a reproché d'être à un moment, en 1948, un peu philo-communiste quand même. Hein, enfin, mais il n'a jamais fait profession de foi quelconque en faveur du Parti. Hein. Et puis voilà, en 50, en mars 1950, un matin, il a été trouvé mort dans son lit. Donc il est mort quand même à. On ne sait pas ce qu'il aurait. C'est évidemment, forcément, une de ces personnalités qui meurt à 45 ans et dont on se demande qu'est-ce qu'elle aurait encore pu inventer. Mais peut-être qu'on peut se dire aussi il avait fait sa trajectoire, quoi.
Il essayait, Jean-Louis Schlegel, Guillaume Leblanc, Anne-Lorraine Bujon, de créer ce qu'on appelle une troisième voie entre le capitalisme et le communisme, justement.
Oui, malgré tout, je pense que dans la deuxième partie de sa vie, donc après la guerre, il aurait plutôt penché, je pense quand même, plus nettement vers une troisième voie assez critique du capitalisme. Parce que aujourd'hui encore, on lui reproche parfois que dans un premier temps, il aurait été peut-être. Malgré tout, trop peu critique envers la technique, envers le moderne, dans un deuxième temps, on a l'impression que le Mounier d'après-guerre devient plus critique. D'ailleurs, après, dans les années 50, c'est un historien, Gulven Budik, qui a fait l'histoire d'esprit, et il montre que dans les années 50, déjà, il y avait une gauche d'esprit, on va dire une gauche de gauche d'esprit, et une gauche un peu rose plutôt, et que ces deux tendances, jusque dans les années 60, se sont assez vivement combattues au sein de la revue. Enfin, ça a créé une tension, quoi.
Guillaume Leblanc, vous sentez encore l'influence d'Emmanuel Mounier dans le travail de la revue Esprit aujourd'hui ?
Disons qu'il y aurait peut-être à poser la question en sens inverse, c'est-à-dire comment on réinvente Mounier aujourd'hui depuis le présent dans lequel nous sommes, puisque c'est vrai qu'en ce qui me concerne, par exemple, je suis entré dans la revue de manière totalement, je dirais, hors Mounier, dans un parcours, et ça reflète, si je parle de moi ainsi, c'est que ça reflète quand même aussi le fait de beaucoup de personnes qui sont dans la revue, je suis travaillant sur la médecine, sur Georges Canguilhem, sur Michel Foucault. Mon premier article dans la revue était consacré à la littérature américaine, à Cormac McCarthy. Et c'est ainsi que je suis entré dans la revue, par la littérature américaine, alors que je travaillais sur Foucault et Canguilhem. Donc voilà, au fond, c'est une espèce de trajectoire un peu curieuse, en un certain sens. Et je trouve que ça reflète vraiment la philosophie, entre guillemets, de la revue. Anne-Lorraine en a parlé tout à l'heure. D'abord, je dirais une attention, et Jean-Louis l'a dit, une attention à l'événement. Au fond, le rôle d'une revue, c'est de proposer un diagnostic raisonné, critique des événements qui constituent notre présent. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à ce présent ? Qu'est-ce qui nous définit dans ce présent ? C'était des questions qui, je pense, font que les uns et les autres, même si nous avons chacune et chacun nos positions intellectuelles, universitaires, critiques, militantes, etc., nous sommes en un certain sens, je reprendrai le mot de Michel Foucault, des sortes de journalistes transcendantaux, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent aux conditions de possibilité du présent. Ça, c'est la première ligne, je trouve, qui est vraiment au cœur de la revue. Et elle s'articule à deux autres lignes qui, pour moi, définissent vraiment l'épaisseur théorique et le style aussi de la revue, à savoir de la deuxième ligne, c'est effectivement cette réflexion critique sur la démocratie, mais au sens positif du terme. Et en ce qui me concerne, mais en ce qui nous concerne, le moment des années 60 dans lequel, au fond, la critique des totalitarismes a été menée ici même au sein de cette revue est vraiment un moment central. Enfin, c'est un moment central puisque à ce moment-là, il était de bon temps un petit peu d'effacer un peu les frontières démocratie-totalitarisme. Et je trouve que ce geste de critique des conditions de la démocratie à partir d'une critique fondamentale du totalitarisme est un élément extrêmement important que l'on retrouverait dans les travaux si importants pour nous de Claude Lefort, de Castoriadis, de Michel de Certeau, de Merleau-Ponty, de Ricoeur. Enfin, voilà, il y a là toute une configuration dans laquelle, je pense, nous sentons appartenir. Et la troisième ligne, je dirais, c'est effectivement, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est cette relation critique au capitalisme qui a toujours existé, qui a pris des formes diverses, critique de l'homme sans qualité dont tu parlais à l'instant, critique d'une société un peu de l'uniformisation des formes marchandes et de la consommation. Et je trouve que l'actualité de la revue, de mon point de vue, tient à cet entrecroisement d'une ligne de réflexion sur ce que c'est que le présent et de ces deux lignes qui définissent un peu notre actualité aujourd'hui, où en sommes-nous dans ce que nous appelons la démocratie, dans ce que nous appelons le capitalisme. Et le point de départ, on y reviendra tout à l'heure, mais du dossier Michel de Certeau sur la figure de la désorientation me semble de ce point de vue extrêmement intéressant. Qu'est-ce que c'est que s'orienter dans ce présent-là qui est le nôtre aujourd'hui ?
Anne-Laurent Bujon.
Oui, non, beaucoup de choses ont été dites déjà, mais sur la façon dont cette première époque d'esprit, je crois, survit dans notre manière de travailler et fait plus que survivre. Je crois qu'elle a infusé plusieurs chapitres de l'histoire de cette revue et elle infuse encore. Je crois qu'il y a deux ou trois choses qu'il faut préciser. D'abord, on parle toujours beaucoup d'Emmanuel Mounier, en effet, mais il a fondé cette revue avec un groupe d'amis, ils étaient plusieurs. Et la revue, c'est un collectif. Et c'est un collectif dans lequel travaillent ensemble des philosophes, des historiens, plus tard des sociologues. Et c'est très important et ça reste aujourd'hui. Donc il faut penser à ce croisement des disciplines où chacun apporte parfois beaucoup d'érudition dans son domaine propre, mais où on cherche aussi à les utiliser tous à la fois, à les confronter peut-être, et à faire fonctionner une intelligence collective. La deuxième chose, c'est que dans cette première époque de la revue, dans les années 30, il y a effectivement cette tension avec les fascismes qui montent, donc la montée des idéologies extrêmes dont on sait qu'elles ont conduit à tous ces crimes de masse au XXe siècle. Et là, on peut quand même dire que très tôt, il y a une méfiance dans la revue devant tout ce qui peut sembler trop doctrinaire doctrinaire ou trop idéologique. Donc là, il y a une autre figure très importante qui est celle de Landsberg, qui a beaucoup influencé Mounier et qui a écrit un article très important sur l'engagement personnel, où il explique qu'on ne s'engage jamais que pour des causes imparfaites. Et donc, il se méfie de l'idéologie qui, finalement, produit toujours du fanatisme. Et c'est peut-être pour ça que Jean-Louis résiste un peu quand on dit Emmanuel Mounier, c'est le personnalisme. C'est que je dirais qu'il y a une méfiance dans cette revue devant une série d'ismes qu'il faut prendre avec beaucoup de distance. Donc, Guillaume nous rappelle effectivement beaucoup plus tard, à partir des années 50, 60, 70, le combat de cette revue contre le totalitarisme, donc contre l'URSS de Staline en particulier, les liens de la revue avec des dissidents en Europe centrale, en Europe orientale. Mais donc finalement, on ne faisait là que poursuivre, je crois, le premier mouvement de la revue de se méfier des ismes. Et puis, il y a quand même cette attention à la personne. Ça veut dire aussi à son désir de justice, une attention à la dignité de la personne humaine, ce qui est devenu plus tard un combat pour les droits de l'homme. Voilà, on n'utilisait pas forcément ce vocable dans les années 30, mais là aussi, je vois des formes de continuité.
Jean-Louis Schlegel.
Oui, j'aurais juste ajouté à ce que vient de dire Anne-Lorraine, c'est dès 1932, hein, dans le tout premier comité, il y a des différences. Et alors, il y a une différence que tu n'as pas mentionnée, mais qui était quand même très importante à l'époque, parce que c'était une vraie rupture par rapport à la tradition, au fond, de la plupart des revues qui étaient composées de comités homogènes. Mounier a beaucoup tenu à ce que les membres du le groupe d'amis, là, dont Anne-Lorraine vient de parler, soient de religions différentes. Ce qui fait que, d'emblée, hein, en 1932, il y a eu, donc, évidemment, avec une dominante catholique, mais le catholicisme, à l'époque, était archi-dominant, il y a eu des protestants, il y a eu des juifs, il y a eu des athées. C'est là aussi, c'est relativement étonnant pour l'époque, hein, parce que, puis, en général, disons, en dehors même, alors, disons, des religions, la plupart des revues se basent un peu sur... ont une base idéologique au départ.
Hein, il fallait choisir son camp, son camarade.
De gens qui veulent, ouais, qui veulent défendre une cause qu'ils partagent. Là, c'était, il n'y a pas vraiment de cause partagée, il y a des valeurs, on pourrait dire, peut-être. Voilà, avec toute l'ambiguïté de ce mot, mais il y avait ça.
C'est ce qui fait d'ailleurs que les comités de rédaction et tout sont des lieux si intéressants, parce qu'on voit la construction d'une pensée commune, mais qui s'élabore dans des... Vraiment des... Oui, des...
À plusieurs voix, c'est la formule qu'on aime bien utiliser. Oui, voilà, du journal à plusieurs voix qui a toujours existé dans cette revue.
Et c'est vrai que ce sont vraiment des lieux de parole libre. Très, très souvent, ceux qui viennent sont vraiment surpris en bien ou en très bien par la diversité, une diversité où on s'écoute.
Écoutez RFI, un numéro du magazine Idée. Nous sommes au siège de la revue Esprit. Et donc, après avoir évoqué l'histoire de la revue brièvement, parlons de Michel de Certeau, donc, auquel le numéro de janvier-février 2022 consacre un dossier. Et à vrai dire, en vous entendant parler d'Emmanuel Mounier, j'avais un peu l'impression que vous parliez de Michel de Certeau, Jean-Louis Schlegel.
Oui, alors, oui, moi, je n'ai pas connu Mounier, hein. Alors, j'ai connu de Certeau.
Mais vous avez connu de Certeau.
Je l'ai connu même assez bien. J'ai eu l'honneur d'être son ami parce que, enfin, l'amitié chez Michel de Certeau était quelque chose presque d'inné et de naturel parce que tous ceux qui l'ont connu ne peuvent dire qu'une chose, malgré son rang intellectuel qui est devenu de plus en plus considérable. cet homme est resté d'un fraternel avec tout le monde, tout à fait étonnant, quoi. Enfin, c'est un souvenir que tous ceux qui l'ont fréquenté, que tous ceux qui l'ont connu ont gardé avec une certaine émotion quand il parle de lui. Parce que, disons, on va dire, tous les grands pontes de l'université, de la recherche, ne sont pas sur ce registre-là. Mais lui, il l'était. Alors, Michel de Certeau, donc, jésuite, hein, il était rentré chez les jésuites au début des années 50. Il a été influencé dans les années 60, tout de même, par un homme qu'il faut nommer, c'est Michel Foucault. Il a fait un des premiers très grands comptes rendus de Les mots et les choses, qui était pendant une courte période de 1966-67 un best-seller. Il a fait un article magnifique dans l'étude. Et puis après, il est devenu cet intellectuel à la fois savant dans sa discipline, qui était, on pourrait dire, la mystique, les phénomènes mystiques, et encore plutôt spécialisé entre 15e siècle et 17e siècle. Donc vraiment savant.
Dans le domaine religieux.
Savant, est-ce chose mystique, oui. Est-ce science mystique, pourrait-on dire, et toujours engagé aussi sur... il s'est engagé sur le front public, et au fond, il s'est fait connaître, évidemment, en 68, par un ouvrage qui reste très souvent cité aujourd'hui.
La prise de parole.
La prise de parole. Une analyse de mai 68, qui tout de suite a paru extrêmement originale, et qui reste un petit essai qui reste un essai superbe sur les événements.
Guillaume Leblanc, vous consacrez, comme Jean-Louis Schlegel, des articles, un article chacun au moins dans ce dossier à Michel de Certeau. Vous vous dites, Guillaume Leblanc, que en fait, son œuvre reste encore à découvrir. Alors, j'ai oublié de le dire, mais il faut le rappeler que Michel de Certeau est un homme du XXe siècle. Il est né en 1925, il est décédé en 1986. Encore une vie plutôt brève.
Oui, c'est vrai. Et, il reste à découvrir parce qu'il n'a pas donné quelque chose comme une école, etc.
Il n'y a pas de système.
Non, son travail est aux antipodes de l'idée d'un système. Et même un système de l'antisystème est absolument aux antipodes de son travail, qui était vraiment effectivement d'une érudition folle sur les questions de l'histoire des religions, de la mystique, mais qui en même temps était traversé par des fulgurances extrêmement à la fois, je dirais, installées dans ce présent et en même temps en avance sur la question finalement de ce que peuvent les vies ordinaires. Dès le texte sur mai 68, la prise de parole, ce qui retient l'attention de Michel de Certeau, ce qui est au centre de son livre, c'est justement cette créativité des paroles ordinaires qui, au fond, d'un seul coup, sont... se libèrent ou en tout cas se mettent à devenir audibles dans un espace qui était quand même un espace d'ordre, de hiérarchie, etc. Au point que Certeau dit que c'est là l'événement, c'est un événement d'une ampleur aussi grande que la prise de la Bastille. La prise de parole, il faut la mesurer à hauteur de la prise de la Bastille. Et ça induit, je pense... un style de travail qui va trouver peut-être son apothéose dans ce livre absolument sidérant et extrêmement important, pour moi un des plus importants du XXe siècle, qui est l'invention du quotidien.
De 1980,
dont d'ailleurs la revue fait paraître l'introduction autour de cette question de la quotidienneté, avec l'idée que, finalement, en revenant à Foucault, dont a parlé Jean-Louis, là où on s'était habitué à penser des systèmes de capture des trajectoires des individus, des désirs individuels autour d'appareils disciplinaires extrêmement importants, on se souvient de la phrase de « surveiller, punir », quoi d'étonnant si la prison ressemble aux écoles, qui ressemble aux usines, qui ressemble aux prisons. Certeau va porter son attention sur la créativité quotidienne qui ne se voit pas, qui ne laisse pas de traces, mais qui justement essaime à l'intérieur du système des disciplines et produit ce qu'il nomme d'une expression vraiment extraordinaire des blocs d'antidiscipline à l'intérieur de la discipline. Et finalement, cette attention à la créativité ordinaire... d'un point de vue philosophique, il est le premier vraiment à penser cette créativité du quotidien. bien avant ce qu'on appellera, enfin ce qui se rappellera après, le retour à l'ordinaire, etc. Il relie la philosophie des jeux de langage de Wittgenstein sur les formes de vie à cette pensée de l'ordinaire. Il critique les sciences sociales pour, disons, et Foucault-Bourdieu, par exemple, pour leur tentative d'avoir produit des rationalités étrangères à ce geste de créativité. Et ça ouvre un espace de réflexion qui est absolument incroyable, dans lequel, je crois, nous sommes encore complètement situés.
Peut-on dire qu'il y a un peu de personnalisme chez Michel de Certeau, enfin.
Jean-Luc Schlegel. Je crois quand même que... Il ne s'est pas réclamé du Mounier et du personnalisme. Hein.
Non.
Je crois que justement.
Mais dans sa démarche, en fait, sur l'individu.
Oui, absolument. Mais aussi, pour la raison qu'Anne Lorraine a dit tout à l'heure, il se méfiait des ismes. Hein, le personnalisme peut devenir assez facilement encore un système. Hein, moi, je le vois bien aujourd'hui, parfois, chez les gens qui se réclament du personnalisme. Mais ils se réclament du personnalisme pour se fermer absolument à toute nouveauté. Par exemple, du côté des législations bioéthiques, etc., dans la défense de la personne. Hein, alors qu'au fond, malgré tout, qui sait ? Aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà une question préalable. Mais qu'est-ce qu'une personne ? Au fond, nous ne le savons plus très bien, puisque, par exemple, moi, c'est l'exemple que je donne souvent par rapport, disons, à la mort, à l'euthanasie ou à pas euthanasie. Les deux positions se réclament de la dignité de la personne. Ça montre bien qu'il y a une incertitude, hein, et que c'est très difficile de prendre ce mot. Il est important et en même temps, on se dit qu'il faut le prendre, je ne sais pas, avec réserve ou avec réflexion. Quoi. Enfin, il faut être un peu plus fin que de l'utiliser comme une arme de guerre. Hein. Mais surtout, de toute façon, moi je pense tout simplement... À certains égards, je dirais très, très sincèrement, je pense qu'il est resté, tout en étant dans une distance langagière ou linguistique énorme, il est resté au fond marqué par l'Évangile, enfin par le message chrétien. Je croirais plutôt que, mais entendu chez lui, interprété chez lui, avec une extrême liberté. Je crois que c'est ça qui est. Si je voulais insister là-dessus, mais j'hésite un peu parce que il était toujours extrêmement discret sur cet aspect de lui-même, mais je pense quand même, au fond, l'influence extrême pour lui a été celle-là, quoi, l'influence de la tradition chrétienne.
Alors, Mujon.
Oui, alors même moi, j'ai découvert Michel de Certeau grâce à cette proposition de Guillaume Leblanc de lui consacrer ce dossier double là en janvier-février. Donc, je ne l'ai pas redécouvert, je l'ai découvert tout court par un ensemble de textes qui ont été publiés dans la revue et puis par les textes qui ont été produits pour ce numéro double. Et ce qui me frappe, en fait, c'est que c'est quelqu'un, je trouve, de très original, singulier, atypique. Mais peut-être justement parce qu'il est singulier et atypique, il me fait beaucoup penser à d'autres figures qui ont marqué cette revue. Donc, il y a d'abord ce côté interdisciplinaire. On a dit il est un peu historien, il est un peu théologien, mais il s'est intéressé à la psychanalyse aussi énormément.
L'anthropologie.
Voilà. Et donc ça, je crois, ça le rapproche d'autres grands philosophes qui ont marqué cette revue. On n'a pas dit tout à l'heure, mais dans les années 30, Emmanuel Lévinas est aussi une référence pour cette revue. Et on voit bien que dans la pensée de Michel de Certeau, il y a cette importance de l'autre, les autres systèmes de pensée, ce qui est étrange, ce qui nous interpelle, donc un intérêt aussi pour les grands récits de voyage, un intérêt pour le monde qui nous renvoie à notre propre étrangeté, donc ça aussi j'y vois des formes de continuité, et au-delà donc de ce côté interdisciplinaire, de cet intérêt pour l'autre, l'étrange, l'absence aussi, ce qui nous manque, ce qui crée un vide. Il y a cette réflexion sur les institutions, donc il en est beaucoup question dans ce dossier que Guillaume a choisi d'intituler l'amour des marges, mais donc l'idée que les institutions produisent des résistances, des contestations, leurs propres marges, des exodes, des exils, peut-être que Guillaume voudra en dire un mot, ce qui ne veut pas dire qu'il faille abandonner l'idée d'une institution, mais par contre elles ont besoin à tout le moins de réformes très profonde.
À commencer par l'Église, voilà. Par exemple. Oui. Jean-Louis Schlegel, vous signez un article assez cinglant, et d'ailleurs, le titre résume tout, « Quand l'institution pourrit ».
Oui, effectivement, Mais ce qu'on vient de dire est très juste, si vous voulez. Il a été radical dans sa critique de l'Église. Dans un livre qui, malheureusement, est devenu un peu introuvable, c'est « Le christianisme éclaté », qu'il a d'ailleurs fait avec le directeur de l'Esprit de l'époque, Domnach, hein, en 1973, je crois. Sa critique est extrêmement forte, et je sais que ma génération, moi-même et d'autres, ont été extrêmement influencés par ça. Et en même temps, il est resté. Et je crois qu'il aurait presque tenu la position que toutes les institutions, au fond, pour chacun d'entre nous, elles sont pourries quelque part, quoi. Elles ne sont jamais... Non seulement elles sont imparfaites, mais elles sont... Je ne sais pas comment dire. Il y a de la perversité partout. Enfin, c'est
elles se corrompent.
C'est le pouvoir, quoi. C'est le pouvoir qu'elles se corrompent. Elles nous manipulent. Enfin, où on se sent manipulé. On se sent victime. Alors aujourd'hui, le mot victime est quand même très, très fort pour le dire. Mais en même temps, pour dire un peu autrement ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, même dans ce côté compact, un peu oppressant des institutions, des idéologies, alors ça c'est un de ses mots favoris, il y a de l'autre. Mmh. Il y a toujours encore une sorte d'issue, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui me manque et par ce biais-là, il y a une échappée. On peut se révolter. Mmh. Je crois qu'il y a quelque chose de ce... C'était ça son idée. Moi, j'ai discuté avec lui de cette histoire-là, disons avec le rapport à l'Église, je peux le dire très sincèrement.
Donc, deux jésuites discutaient
oui,
de l'Église.
Éventuellement,
en fait.
Mais lui, sa position, mais moi, je ne pouvais pas trop le suivre, je le reconnais. Il disait, au fond, les institutions, il faudrait avoir un rapport ironique, quoi, disons, en profiter, les utiliser, mais être libre à leur égard, malgré tout. Hein, être libre pour créer soi-même et pour sortir et pour avancer et pour échapper. C'est une position quand même difficile, quoi. À un moment donné, les institutions, quand vous les avez dans la tête et sur la tête et quand elles vous écrasent, vous n'avez qu'une possibilité, c'est de partir, quoi. Hein, mais
voilà. À commencer par l'Église.
Voilà, mais bien sûr, mais voilà les discussions que nous avions. Mais effectivement, dans le texte, l'institution de la pourriture, il fait très allusion, très clairement à l'Église, hein, qui est aussi une institution de la pourriture. Alors, forcément, ce texte m'a marqué depuis longtemps. Hein. Mais comme j'ai eu l'occasion avec ce numéro de me mettre vraiment dedans et de me pencher dessus, ça tombe en même temps au moment où je le rédigeais sur le rapport de la SIAZ, sur les abus sexuels. Là, évidemment, j'ai eu un éblouissement carrément, quoi. Enfin, parce que de dire, voilà, dans la pourriture, on y est, là.
Guillaume Leblanc.
Oui, j'aimerais revenir sur cette notion de cette centralité de l'institution, du rapport. Effectivement, ce qui est extraordinaire chez Michel de Certeau, c'est qu'au fond, il fait une lecture à la fois du caractère incontournable des institutions, bon, et en même temps, les institutions, il voit dès 1969, dans un texte sur les révolutions du croyable, il voit dès 69 le problème que nos sociétés, de plus en plus, finalement, sont focalisées ou sont organisées par des institutions qui peuvent être une église, qui peuvent être des partis, des syndicats, des universités, etc. Enfin, toutes les logiques institutionnelles, il voit très bien que les individus croient de moins en moins dans leur propre pouvoir, sont en train de fuir de ces institutions, ce que j'appelle moi une société de l'exode, justement. C'est-à-dire, au fond, ils se constituent ce qu'il appelle lui des émigrants. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait société si tout le monde a envie de partir, de se, entre guillemets, casser. Ça, c'est la question qu'il agitait. Et du coup, par rapport à cette question, vraiment, 69, je trouve que relire ça aujourd'hui, c'est extrêmement fort, puisque nous voyons bien comment les partis se sont délités, combien les organisations syndicales se sont délitées. Alors, ça ne veut pas dire que, justement, Michel de Certeau n'était pas attentif à l'engendrement de nouvelles institutions. Institution implique, il y a de l'institution qui pourrit, qui devient de l'institué et qui produit effectivement des formes de pourriture, mais qui produit aussi des contestations qui réengendrent un geste de réinstituer, de l'instituant. Et donc c'est toute cette dialectique de l'instituant et de l'institué qu'il faut effectivement mettre en place dans la au cœur du social. Et peut-être que pour en revenir aussi à un autre aspect, quand vous demandiez tout à l'heure le lien au personnalisme, etc., sur la personne... Moi, je dirais que le geste extrêmement important de Michel de Certeau, c'est d'avoir pris l'individu par ses pratiques. C'est-à-dire d'avoir mis entre parenthèses cette espèce de boîte noire de la personne. Parce que Jean-Louis le disait très bien à propos de la fin de vie. Bon, voilà, on peut se référer à la personne d'une manière ou d'une autre, pour l'euthanasie ou contre l'euthanasie. On a affaire à une boîte noire. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est regarder, ausculter, observer les pratiques. Et là, si on observe les pratiques, si je prends par exemple trois exemples de pratiques, consommer, oui, lire et marcher,
qui les sont stratégies trois, de contournement, voilà,
qui sont trois pratiques centrales, hein, dans l'invention du quotidien. Qu'est-ce qu'on a ? On a à chaque fois l'autorité qui nous dit que la consommation est une aliénation pure et simple, par exemple. Pour marcher, on a l'autorité des grands monuments, hein, dans une ville. Marcher, ce serait honorer ces grands monuments. Et à chaque fois, et lire évidemment les grands textes, la grande culture. Et à chaque fois, ce que fait Michel de Certeau, c'est qu'il montre qu'il y a des détournements par les pratiques. On ne se contente pas de marcher pour voir les monuments, mais on hybride avec d'autres lieux insolites. On recompose un monde à partir de la pratique. Pour lire, on ne se contente pas de lire les grands textes, mais on va lire toutes sortes de choses que l'on va ensuite, en quelque sorte, mixer dans une espèce de synthèse créatrice. Et c'est exactement ce que Michel de Certeau propose. C'est une réflexion sur les synthèses créatrices, c'est-à-dire recréatrices. Et sur l'université, par exemple, ces positions sur l'université sont extrêmement intéressantes, puisque le problème qu'il avait justement diagnostiqué, c'est qu'il ne s'agit pas pour l'université de suivre de manière monomaniaque les disciplines dans leur pureté intrinsèque. Il s'agit de se rendre attentif aux recréations par les étudiants, justement, de ces lieux interdisciplinaires à partir de leurs propres enjeux, de leurs propres positions, de leurs propres problèmes. Et donc, je dirais que c'est cette espèce de reprise créatrice par la pratique, que par la praxis finalement, que Michel de Certeau nous force à penser aujourd'hui encore.
Jean-Louis Schlegel.
Oui, moi je crois que tout ce qui est dit, je suis totalement d'accord, mais je me demande quand même si... Je pense que ce que tu dis, Guillaume, c'était vraiment le fond de la pensée de Certeau. Mais je pense que la nouveauté qui s'est passée depuis, moi je l'ai un peu découvert, je l'ai abordé trop vite dans mon article, ce qui s'est passé depuis, c'est quand même le rôle du droit. Le rôle du droit un peu partout qui s'est affirmé à un point absolument considérable, c'est-à-dire, il s'agit dans ce qu'il s'agit de gagner, ce n'est pas nécessairement de la créativité, c'est du droit, de nouveaux droits. Multiplier les nouveaux droits. Alors, il faudrait évaluer un peu ce que ça veut dire, cela, quoi. Hein. Mais aujourd'hui, au fond, par rapport aux institutions et à la perversion des institutions et au fond, à tout ce qu'elles peuvent se permettre par moment par rapport à ceux qui sont dedans, la seule défense pour beaucoup, c'est le droit. Un droit des victimes de l'institution. Là, je pense beaucoup au droit social. Hein. On dit que, à la limite, quand on regarde bien, à tout bout de champ, ça revient des droits nouveaux pour ceux qui sont... Enfin, c'est-à-dire le rôle de l'égalité est devenu fondamental aussi là-dedans. Hein. Enfin, il y a des choses comme ça. Disons, si on faisait une discussion autour de la pensée de Certeau, ce sont certainement des points qu'il faudrait aborder.
D'autant qu'il s'est intéressé aux oubliés, à la voix des exclus, des oubliés.
Oui, mais justement, là-dessus, je suis tout à fait d'accord sur le fait d'être privé de droits, être exclu, être oublié. Ouais, il se trouve que je travaille depuis deux ans là, dans un genre de séminaire de philosophie sociale avec Athédée Carmonde auprès d'exclus. Et je suis justement dans un groupe de travail sur la question du droit. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que les militants d'ATD qui perçoivent extrêmement la pertinence du droit et en même temps ils en éprouvent la violence intrinsèque. C'est-à-dire que pour eux, le droit, ce n'est pas pour eux, justement. C'est un système de puissance qui vient leur arracher leurs enfants. Là où ils pourraient réclamer le droit, justement, on leur prend. Donc, il y a une violence intrinsèque aussi au droit qui contredit les désirs. Et donc, c'est toujours cette relation désir-droit qui est, à mon sens, extrêmement importante dans la propre pratique, justement, des pratiques.
Je reviens au titre « L'amour des marges », c'est-à-dire, et là, je vous provoque, que Michel de Certeau prônait la marginalité.
Non, il y avait une position théorique d'abord. La marche, c'est justement un point de vue d'abord sur l'illusion d'un centre. S'installer, entre guillemets, autrement dit, c'est d'abord un point de vue. C'est un point de vue qu'il faut arriver à conquérir en allant vers l'idée de l'autre, contre toute position de l'un, conquérir le point de vue des autres.
D'ailleurs, il y a dans la revue un article sur le néocolonialisme, sur ces études coloniales qui prennent en compte, aussi pas suffisamment, disent les auteurs, Michel de Certeau.
Exactement, parce que les positions de Michel de Certeau sont extrêmement intéressantes pour penser les différentes formes de subalternité, de périphérie, justement, et essayer de repenser le centre depuis la périphérie, c'est d'abord une révolution épistémologique qui consiste à envisager la créativité des marges et la façon dont elle réinvente des formes d'événements, de pratiques, d'institutions qui peut-être nous obligent à dissoudre la partition centre-marge.
Jean-Louis Schlegel, est-ce que les jésuites sont des marginaux, en fait ?
Il y en a.
Des rebelles et des marginaux.
Non, mais aujourd'hui, c'est... moi, je dirais, quand on est jésuite aujourd'hui, je suppose, comme disons, tous ceux qui vivent encore dans l'Église ou qui sont croyants, je parle aussi des laïcs, on vit dans une Église éclatée. C'est-à-dire, son titre reste totalement vrai. Moi-même, je suis dans un livre qui paraîtra en mai, où ce thème est central, c'est-à-dire l'unité est complètement fracassée, donc chacun doit trouver sa place. Alors, du côté des religieux, c'est très difficile. C'est encore une autre question. Pour ceux qui veulent vivre au cœur de l'institution, comme prêtre, comme religieux, comme tout ça, c'est... Moi-même, j'aurai des questions, mais je respecte ce choix. Voilà.
Je termine avec vous, Anne-Lorraine. On vous remercie encore de nous avoir accueillis. Et je me dis, en écoutant Jean-Louis Schlegel et Guillaume Leblanc, que vous êtes décidément, et Michel de Certeau, vous êtes en bonne compagnie.
Oui, nous sommes en bonne compagnie avec lui et un certain
sans jeu de mots, je ne parle pas de la compagnie de Jésus.
Voilà, d'autres auteurs et d'autres grandes figures. Quand on parlait de l'institution, moi je pensais au lien qu'il y aurait peut-être à faire entre la pensée de Michel de Certeau et celle de Paul Ricoeur, mais ce sera pour une autre émission. Et je pense aussi, j'ai lu dans la jeunesse de Michel de Certeau, en fait, il a souhaité rejoindre la compagnie de Jésus parce qu'il se voyait très bien partir comme missionnaire en Chine, ce qui nous dit bien quelque chose de cet appel du monde, de l'autre, de l'étrangeté. Alors, je crois qu'il n'y est jamais allé en Chine, mais en tout cas, ce désir de découvrir le monde, d'aller, de revenir et de voir ce que ça fait à la pensée, je pense qu'il est au cœur encore de notre travail aujourd'hui.
C'est-à-dire, la Chine, à cause de Matteo Ricci, est un mythe jésuite, ou chez les jésuites.
Oui, celui qui est allé à la rencontre de la civilisation chinoise, effectivement. Merci Jean-Louis Schlegel, merci Guillaume Leblanc, merci Anne-Lorraine Bujon.
Et merci à vous.
Et à bientôt dans une semaine d'actualité. C'est ainsi que s'achève ce numéro du magazine Idées, réalisé à la rédaction de la revue Esprit. Donc, réalisation précisément Vanessa Rovensky, bien sûr, prise de son Jade Elkoury. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI. RFI, la sélection de...